Le NRV La Sud ce soir, c'est retour à la case BD. Mais avant de commencer, on fait le petit tour de table quotidien avec les co-auteurs du nouveau Blake et Mortimer. Oui, ils s'y sont mis à quatre. François Skuyten, je commence par vous. Vous êtes dessinateur, scénographe, bien connu entre autres pour Les Cités Obscures, co-écrit avec Benoît Peters. Ça vous va comme présentation ou je rajoute quelque chose?
C'est parfait.
C'est parfait. Jacob van der Mal, cinéaste, scénariste, on vous doit Toto le héros, Le Huitième Jour et Le Tout Nouveau Testament, entre autres. C'est bon?
Et un peu de théâtre aussi.
Et du théâtre aussi. Oui. Avec Michel Andemey. Voilà. Très bien. Thomas Gunzig, romancier, chroniqueur, scénariste. Vous avez déjà signé Manuel de survie à l'usage des incapables. Et puis on attend Phil Gould. Ça sera pour la rentrée littéraire d'août-septembre.
Absolument.
Correct. Et enfin, Laurent Durieux, vous êtes affichiste, illustrateur, graphiste, remarqué notamment pour l'affiche François à l'américaine. C'était une exposition consacrée à Jacques Tati. Ça vous va comme présentation?
Merci
aussi?
Très bien.
Tout le monde est content. C'est parti.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir ou alors bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Marc Jaune au programme ce soir avec le nouveau Blake et Mortimer, le dernier pharaon, ça casse la baraque, à peine sorti en librairie. Une BD qui sera augmentée d'une exposition au Musée des Arts et Métiers à Paris fin juin. Ce nouvel album BD est un événement logique pour une œuvre qui reste l'un des plus gros tirages de la BD franco-belge, juste derrière Astérix. Alors depuis la mort d'Edgar P. James, non. D'Edgar P. Jacobs en 1987, eh bien, l'œuvre a été scénarisée et dessinée par d'autres. Il y a eu Jean Van Hamme, il y a eu Ted Benoît, il y a eu Yves Sant. Et cette fois, ils sont quatre à avoir imaginé Blake et Mortimer à la retraite, vieillis et accompagnés par une femme, le tout dans une ligne beaucoup moins claire. Alors, comment s'est construit cet album à quatre mains? Plutôt à huit mains, quatre mains, ça va pas du tout.
Parce que vous dessinez avec les deux mains, vous.
Peut-être. Quelle vision politique défend-il? Et au-delà, quel visionnaire, le père de Black et Mortimer, Blake et Mortimer, pour ceux qui le prononcent bien, était-il? On veut en savoir plus avec mon Mortimer à moi, c'est Benoît Lagan.
Cher Blake.
Blake et Mortimer, nouvelle aventure, nouvelle malédiction, le NRV, c'est à suivre ce soir.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Benoît.
Alors Blake et Mortimer sont de retour dans Le Dernier Pharaon. Et dans cette histoire, on retrouve donc le professeur Philip Mortimer, spécialiste en physique nucléaire, et le capitaine Francis Blake, ex-pilote britannique et patron du contre-espionnage. On retrouve les héros donc de la marque jaune, le titre phare de la série, mais ils ont pris de l'âge. Bruxelles est un no man's land. Il faut dire qu'un champ électromagnétique surpuissant venu des sous-sols du palais de justice a obligé les autorités à enfermer Bruxelles. Le temps a donc passé, les deux compagnons de route se sont perdus de vue. Nous sommes dans les années 80 et leur mission est d'essayer de comprendre pour quelles raisons les rayonnements électromagnétiques ont repris depuis Bruxelles. Ce rayon menace désormais la planète entière, mais ce rayon est-il réellement une menace ? François Skuyten, pour imaginer ce one-shot, en bon bruxellois, je ne sais pas comment on le dit, vous y avez mis beaucoup de vous-même, vous vous êtes d'abord plongé dans votre propre enfance et votre propre rapport à cette œuvre, et puis comme Jacobs, vous avez fait des croquis de repérage, passionné d'architecture, notamment du palais de justice de Bruxelles que vous avez arpenté, vous vous êtes rendu jusqu'en Égypte pour découvrir les secrets de la Grande Pyramide sur le plateau de Gizeh. Bref, 4 ans de travail et un sacré investissement qui pour le lecteur en vaut la peine, on va en parler en détail dans un instant. Mais avant toute chose, François Skuyten, vous l'avez dit récemment dans plusieurs interviews, vous avez dit que la BD s'était terminée. Et vous avez dit notamment...
Ah oui, c'est l'actualité ça aussi, vous avez complètement court-circuité la presse.
Voilà, et vous avez dit notamment que c'était en lien avec toute la problématique de la précarité des auteurs. Donc, quand on s'appelle François Skuyten et qu'on se lance dans un Blake et Mortimer, c'est encore compliqué?
Alors, pour le Blake et Mortimer, certainement pas, parce que là, on est protégé, on a un éditeur qui voulait ce projet, on est avec des amis, on est très au chaud. Mais par contre, quand on se retrouve dans les 5300 nouveautés qui sortent chaque année, quand on se retrouve à travailler comme je continue à le faire, c'est-à-dire presque 3-4 ans sur un album, vous vous sentez un peu en décalage. Un décalage qui, pour l'instant, peut être très difficile et une équation très difficilement résolvable parce qu'il faut du temps et que ce temps est de moins en moins pris en compte et que peut-être aussi... peut-être qu'il faut peut-être pas faire le livre de trop, peut-être qu'il faut aussi se remettre en question et aller ailleurs pour, mais ce n'est pas non plus quelque chose de très grave, tout ça, c'était formidable.
Non, mais ça a quand même secoué quelques auteurs, hein. On a vu des commentaires un peu partout arriver. Juste une question, François Skeuten, pour faire ce travail vraiment magnifique autour de Blake et Mortimer, on sait que ça vous a demandé beaucoup de recherches sans être défrayé. Ça veut dire que les éditeurs aujourd'hui n'ont plus les moyens ou n'ont pas les moyens pour cela?
On est dans un système qui nous pousse à devoir aller un peu plus vite, parce que les droits d'auteur ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, parce que le réassort aussi disparaît, parce qu'on est dans un tuyau qui est un peu boursouflé. Et dès lors, le temps de la création, le temps de recherche, le temps de où on hésite, le temps des doutes, et ça s'atrophie pour produire un peu trop vite parfois. Et surtout quand on est un dessinateur réaliste, il y a un temps qui est incompressible. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire souffrir. Et moi, je pense surtout à beaucoup de jeunes auteurs à qui peut-être, pour certains, il faudrait dire non. Et à d'autres, il faudrait dire on va t'aider vraiment. Et je pense qu'aujourd'hui, le risque, c'est plutôt les auteurs qu'ils prennent. Et c'est plutôt eux qui sont devenus la variable d'ajustement. L'éditeur, je ne cherche pas à essayer de...
Monter les uns contre les autres, on a bien compris.
Oui, parce que c'est pas le problème, c'est le système qui est devenu assez compliqué. Un système qui est un petit peu affolé.
Mais c'est un problème pour la BD ou c'est aussi un problème pour le cinéma, pour quand on est romancier, quand on est illustrateur? Est-ce que le problème que vit actuellement la BD, est-ce que vous l'entendez et vous la vivez aussi?
Thomas Gunzig, au niveau de la littérature.
Oh ben oui, littérature, oui, c'est terrifiant. Il y a entre 600 et 800 romans qui sortent à chaque rentrée littéraire, juste la rentrée de septembre. Il y en a 10-15 qui vont survivre et les autres passeront au pilon et les auteurs n'auront gagné rien ou quasi. Donc c'est effectivement une précarité extrême. La plupart des auteurs que je connais ne vivent d'ailleurs pas de leurs droits d'auteur, ont une activité professionnelle à côté.
Donc travailler pour pouvoir être édité. Et vous, Jacques Van der Mal, du côté du cinéma, j'imagine que vous entendez la
cinéma,
même chose.
Entre le moment où j'ai commencé et maintenant, l'exercice c'est faire avec moins d'argent. Il y a de plus en plus de films mais qui se font avec de moins en moins d'argent. Et bon, alors parfois c'est un exercice salutaire parce que ça oblige à inventer des formes qui sont différentes, des manières de travailler qui sont différentes.
Et du côté de l'affichisme?
Oui, c'est la même chose.
Vivre. Ça, du côté de la radio, je peux vous rassurer, c'est pareil.
Vivre de son art, c'est évident.
Ouais, c'est difficile aussi.
Bah oui, il y a beaucoup d'illustrateurs, mais peu qui peuvent en vivre, quoi, tout simplement.
On va rentrer dans la BD tout de suite maintenant.
Oui, François Skeuten, le point de départ donc de cet album, c'est la découverte en février 2012 de quelques lignes d'un projet de scénario imaginé par Edgar P. Jacobs. C'est un journaliste du Soir, hein, le quotidien belge, Daniel Couvreur, qui vous fait découvrir cette bribe de scénario. Ce scénario est situé dans le palais de justice de Bruxelles. C'est quoi cette idée?
C'est pas grand-chose. Ce qui était surprenant, c'était de voir qu'il était prêt à mettre au cœur d'un de ses récits le bâtiment qui domine la ville de Bruxelles, alors que tout le monde le sait, Bruxelles n'était pas normalement acceptable comme sujet parce que les auteurs belges concentrent leur regard vers la France, qui est leur grand public. Dès lors, on nettoie un petit peu tout élément bruxellois ou belge. Et c'était très étonné qu'il s'autorise ça. Et donc, à partir du moment où il avait cette intention, c'était comme s'il y a eu un moment comme ça où je me suis dit, ah bon, il peut oser ça, il peut faire ça. S'il avait eu envie de ça, tout était possible pour moi. Ça a libéré plein d'idées. Et je me suis dit, il nous tend la main.
C'est pour ça que vous êtes allé chercher des Belges pour vous accompagner?
Mais c'était Thomas pas Gunzig. Des Belges, c'est des amis.
Ouais. Parce que des Belges aussi. On peut avoir des Belges amis, hein.
Oui, entre autres choses.
Entre autres choses, oui. Ouais. Mais vous êtes allé chercher donc un auteur, Thomas Gunzig, un illustrateur, et puis un cinéaste.
Oui, d'abord Jaco, parce que.
Jaco Van der Mal, cinéaste,
On se connaît depuis 35 ans, plus de 35 ans, et puis lui, il a amené Thomas, et puis très vite, moi, j'ai voulu travailler, me bousculer un peu, essayer de sortir d'un certain nombre de réflexes, puisque ce livre, il fallait l'inventer. C'est-à-dire qu'on était tous un peu... on savait pas comment on allait aborder ça, c'était d'ailleurs très jubilatoire de faire en sorte que la page était vraiment blanche, et qu'il fallait trouver une écriture pour oser... se mettre dans les pas de Jacobs.
Mais justement, Jacques Van der Mal, il n'y avait aucune réticence, vous, à vous lancer dans une telle aventure?
Au départ, je l'ai fait par intérêt, par amitié et pas par intérêt pour une autre façon de raconter des histoires, parce que j'aime bien, c'est super de faire un truc pour la première fois à 60 ans. Et dans la BD, ben effectivement, on peut sans problème dire les Indiens attaquent le fort et mettent le feu à la ville, c'est pas plus cher que il épluche 4 pommes de terre.
Non. Pourquoi s'en priver ?
Voilà, ça là,
alors c'est un peu plus
voilà,
fun.
C'est ça, alors que dans au cinéma, tout de suite on doit penser un Indien attaque une petite fermette et puis donc c'est un autre type d'exercice et aussi de travailler directement, c'est-à-dire la manière dont on a écrit tous les trois, c'est qu'on n'est pas passé par un texte écrit. On s'est vu une fois par semaine pendant un an et demi et on écrivait en dessinant, c'est-à-dire on regardait la main de François. Quand la main de François bougeait, dessinait, on se disait ça c'est une bonne idée. Et puis petit à petit, en dessinant, tout en faisant un crayonné du début vers la fin, et puis après en se rendant compte que ça marche pas, on recommence, on redécoupe, on refait des nouvelles pages, on refait des nouvelles scènes, on inverse, etc. Donc ça a été écrit directement pour être dessiné, directement pour exister sur une planche.
Quelle connaissance vous aviez de cette bande dessinée, culte Blake et Mortimer, Thomas Gunzing?
Une connaissance qui s'arrêtait, je pense, à mes 12 ans. Très amateur de la série, j'avais lu la Grande Pyramide et surtout Le Piège Diabolique, qui était ma BD préférée de mon enfance, que j'avais lu plusieurs fois et qui rassemblait un peu tout ce que j'aimais dans les histoires. Et puis, je sais pas pourquoi, j'avais un peu lâché l'affaire, mais il restait des souvenirs super forts, en fait, d'émotions que j'avais ressenties, de mystères, d'inquiétudes, d'atmosphère, des images. Donc voilà, donc forcément, quand François a proposé que je me mette à jouer avec ces jouets-là, ben, j'étais évidemment ravi et excité.
Et de votre côté, Laurent Durieux, quelle connaissance vous aviez de Blake et Mortimer ?
C'est un peu ennuyeux, parce que c'est exactement la même que Thomas. J'ai découvert Blake et Mortimer avec Le Piège Diabolique chez ma grand-mère quand j'étais tout petit. Et il n'y avait qu'une seule BD, donc je l'ai lu plusieurs fois.
Et après, vous avez abandonné Blake et Mortimer, comme lui ?
Ah oui, après mais je suis resté dans la BD réaliste par contre. Jusqu'à très tard, je pensais que la BD n'était que réaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai toujours pas lu Franck, Gaston Lagaffe par exemple. Je sais que c'est un génie, je les ai, mais j'ai pas encore pris le temps de les lire parce que j'ai grandi avec Métal Hurlant.
Ça veut dire quoi donc d'abandonner Blake et Mortimer quand on est jeune adolescent qu'on poursuit pas ? Pense à ce que t'as une.
Alors je ne sais pas parce que moi j'ai toujours revenu. Parce que c'est une œuvre très troublante, en fait. C'est une œuvre qui, elle est constituée de peu de livres, mais curieusement, ces livres ont une capacité à s'incruster en vous. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi ces images perdurent? Pourquoi elles vous hantent? Je ne m'explique. Bon, je vois la qualité, mais je ne comprends pas comment Jacobs a réussi à, par le dessin, à faire une synthèse entre des idées et des signes.
Justement, quel a été votre premier dessin pour cette BD ? Le premier.
Et le premier dessin, c'était une sérigraphie que j'ai fait pour essayer d'approcher un petit peu ce qu'on voulait faire. Et c'était effectivement Mortimer avec son revolver, qu'il n'aura pas dans l'histoire d'ailleurs, qui se retourne vers l'entrée du palais avec des rayons lumineux qui sortent. Ça, c'était un petit peu l'image qui nous a inspiré, Jaco, Thomas et moi.
On va rentrer dans l'album dans quelques instants.
Laughing gas, these hazmats, fat get attached. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chin it.
Feel Good Inc. signé Gorillaz en 2005. Eux aussi, ils avaient développé un véritable univers visuel comme les quatre complices à l'œuvre pour cette nouvelle aventure de Blake et Mortimer. François Skuyten, Jaco van der Mal, Thomas Gunzig et Laurent Durieux sont nos invités ce soir.
Rendez-vous.
J'ai remarqué ceci, c'est que Blake est en somme le complément de Mortimer, d'une égale valeur mais d'un tempérament différent. D'où confrontation d'opinion, ni numéro 1 ni numéro 2, ces deux personnages sont égaux.
Le nouveau rendez-vous.
Au début de chaque histoire, il y a toujours la petite étincelle qui est l'idée. Je commence par faire un travail de prospection. Et puis, je vais trouver les spécialistes.
Laurent Goumard.
Mais qu'est-ce qui se cache derrière Jacobs? Est-ce que c'est un scientifique qui a raté sa vocation?
Je ne sais pas réparer ma voiture.
Moi non plus. Un nouveau Blake et Mortimer, l'œuvre culte de la BD franco-belge, vient de paraître. Du coup, énervé la suite, on veut en savoir plus et tenter un peu de percer le mystère. Edgar P. Jacobs, son créateur, c'était qui? Il a été l'assistant d'Hergé, il a été publicitaire, c'était qui?
Alors, au départ, c'est vraiment un chanteur d'opéra et il aimait énormément. Il était un peu déçu sans doute de ne pas avoir eu tout à fait la carrière qu'il espérait, tout en étant d'ailleurs quelqu'un qui faisait ses costumes ou qui dessinait les costumes de certains opéras et les décors. Donc, il s'est beaucoup investi dans ce domaine. Et puis, à 40 ans, ça ne marchait plus comme avant. Et il a toujours dessiné parallèlement. Il a fait beaucoup de travail de publicité, de mode. Un très grand dessinateur de costumes. À chaque fois que je vois comment il dessinait un tombé de pantalon, j'avais pas mal de complexes. Et donc, il se met à la bande dessinée assez tard. Et c'est vrai que c'est par Hergé, puisqu'il va commencer par aider Hergé dans la mise en couleur. Et vous allez voir, d'ailleurs, il y a un changement de qualitatif. Dès que Jacobs arrive, les mises en couleur qu'il fait changent complètement la qualité des Tintins. Hein, je crois que tu peux confirmer, Laurent, qu'il y a un avant et un après.
Oui, carrément.
Laurent Durieux.
Oui, sur les 7 boules de cristal.
Ouais, déjà, c'est lui.
Ouais, c'est lui. Il arrive à ce moment-là, je pense.
Et au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'il fait alors?
Bah, il transcende tout le bazar, quoi. C'est-à-dire qu'il explique un peu à tout le monde comment ça marche la couleur, quoi. Et c'est pour moi, c'est le maître absolu. Donc, oui, avant Hergé, il chipote, quoi. Enfin, les studios chipotent. C'est pas au point. Et Jacobs arrive et dit non, je vais vous montrer, venez par ici.
C'est bizarre, vrai. Chaque fois qu'on dit le mot bazar, c'est toujours un... Vous êtes belge?
Ah oui. Ah,
c'est toujours un belge qui le dit. C'est Arnaud qui dit ça.
Arnaud dit bazar.
Jaco van der Mal, vous vouliez dire par rapport à ce que disait Laurent, non, vous vouliez réagir?
Non, je voulais envoyer la parole à Laurent. Parce qu'il a...
Alors, moi, c'est la dimension qui m'intéresse chez Jacob, c'est sa dimension politique. Parce que vous, quand on lit votre album, on voit bien que c'est forcément en écho à ce qui se passe aujourd'hui, les questions de décroissance, la dimension écologique est présente, il y a la critique du monde néolibéral. Mais lui, Edgar P. Jacobs, dans ses BD, quelle vision du monde il portait ? Il se situait où politiquement ?
Ouais, il était profondément influencé par tous les événements qui étaient arrivés au moment où qu'il vivait. D'ailleurs, donc la guerre 40 est très inscrite dans l'imaginaire de Jacob. C'est peur du nucléaire aussi. Il y a tout ça. Mais c'est aussi pour moi quelqu'un qui est capable de voir les rêves de son temps avec l'Atlantide, avec et puis les rêves technologiques, avec maîtriser la météorologie. C'est ça qui est beau chez cet artiste, c'est qu'il a quand même une capacité à capter les mythes de son temps.
Vous, qu'est-ce que vous vouliez apporter dans cette aventure de Blake et Mortimer, vous qui êtes cinéaste, qui êtes scénariste, un homme d'image, un homme de scène aussi, Jacob van der Mal, qu'est-ce qui vous intéressait?
On avait tous les trois envie de la fidélité était quelque part impossible. On ne sait pas ce que lui aurait fait maintenant.
Non, mais ça, trahir, c'est pas grave.
Voilà, c'est ça. Mais on travaillait avec les Mortimer qu'on gardait en nous de notre enfance et c'est un plaisir incroyable.
D'ailleurs, on vous a pas posé la question. Vous, c'était lequel votre album préféré?
Moi, c'était Le Mystère de la Grande Pyramide.
Ah oui, d'accord. Ça tombe bien avec le dernier pharaon. C'est
mon livre de chevet. Donc c'est assez formidable de pouvoir refaire vivre un héros de l'enfance quand on est adulte, mais on avait envie évidemment de le rendre de mettre des préoccupations de maintenant, donc du coup c'est beaucoup plus contemporain. Ils ont vieilli, ils sont plus vraiment dans la société, ils sont un peu has-been. Et les technologiquement ici le danger c'est ce qui existe dans notre société contemporaine, c'est-à-dire que s'il y avait une éruption solaire très violente, tous les disques durs s'effaceraient, nos souvenirs sont sur des disques durs, les possessions sont sur la différence entre les riches et les pauvres, c'est ce qu'il y a sur le disque dur des banques, la dette du tiers monde c'est sur les disques durs, et donc c'est une espèce d'explosion qui pourrait y avoir pourrait effacer ou pas et réinitialiser ou pas l'ordre du monde, quoi. Donc il y a ceux qui veulent que ça se passe et ceux qui veulent pas que ça se passe.
Moi, ce qui m'a véritablement intéressé, c'est que vous les avez vieillis. Ils sont à la retraite. Et ça, c'est très intéressant, parce que généralement, quand on reprend des héros, c'est pour ça que c'est un hors-série, hein, ce nouvel album. Quand on reprend des héros, ils sont toujours pareils. En fait, Astérix, il vieillit pas. Lucky Luke, il a toujours la même tronche. Et là, vous les avez vieillis.
Pas toujours, mais sauf dans des bonnes choses.
Ouais. Laurent Durieux, c'était intéressant, ce pari, justement, de travailler sur le visage et sur la silhouette. François Skuyten aussi, ouais.
Oui, mais c'était juste un petit peu plus de boulot, parce que une barbe rousse, quand on vieillit, c'est plus une barbe rousse, c'est une barbe poivre et sel.
Donc on doit
s'amuser avec plusieurs couleurs là-dedans. Ouais. Non, mais je trouve que c'était une bonne idée, parce que ça tranchait vraiment. Ouais. Ça a le mérite de trancher, de dire on est ailleurs.
Et sur le plan de la position psychologique, Thomas Gunzig, forcément, quand on vieillit, on devient encore plus con, ou peut-être ou moins. Est-ce que vous l'avez pris en compte, ça, dans les personnages tels que vous les avez écrits?
Il y avait plein d'éléments intéressants, justement, à les prendre plus âgés. D'abord, on peut faire évoluer la nature de l'amitié qui lie Blake et Mortimer. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été, la relation qui les a unis était toujours la même dans tout ce qu'on a lu. C'était intéressant de voir à un moment qu'il y a une distance qui s'est créée entre eux.
Ils finissent par coucher ensemble, en fait.
Le grand fantasme.
Non, mais c'était intéressant pour donner une nouvelle qualité à leur amitié, qui est une brouille et puis des retrouvailles. Ouais. Ça donnait une nouvelle valeur à leur amitié. Et puis de changer aussi la vision qu'ils ont sur le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, leur job dans les années 50, dans ces années de guerre froide, c'était sauver le monde contre l'espèce d'étranger absolu qu'était Ulrich. Maintenant, changer le monde aujourd'hui, c'est pas changer le monde comme il y a 50 ans. Voilà. Il faut probablement partir. Le mal s'incarne autrement quand une espèce de vision étrange de l'étranger.
Alors, vous êtes quatre hommes autour de la table, quatre hommes à avoir repris l'univers d'Edgar P. Jacobs. L'univers de Blake et Mortimer est très masculin. Vous l'avez féminisé avec notamment l'invention de ce personnage de Lisa. Écoutez ce que disait au sujet des femmes Edgar P. Jacobs au micro de François Rivière. On était en 1975.
Hey. On constate donc qu'il y a également un personnage, si je puis dire, qui n'existe jamais. C'est le personnage féminin.
Ah! Je n'irai pas jusqu'à partager l'opinion de Landru qui disait « la femme au foyer », mais dans une histoire de science-fiction, je crois que l'élément féminin devient vite encombrant, souvent superflu. et qu'il oblige le narrateur à des mièvreries qui ne peuvent que nuire au déroulement de l'action. Ceci dit, si un jour le sujet s'y prête et si j'ai à ma disposition un modèle graphologique, graphogénique plutôt, rien ne me dit que je ne ferai pas une histoire avec une bonne femme.
On était bonne... on était complètement bourré ou
non,
quoi
on était oui, notre enfin...
oui, je suis un petit peu surpris, mais je crois en
la
plus,
femme au foyer, c'est tendu.
Oui, alors il a voulu faire un mot d'humour oui. à la belge. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que Jacobs aurait voulu mettre des femmes. On le voit dans le rayon U. Il y a des femmes, elles sont très belles d'ailleurs. Il se fait que les contraintes de l'époque faisaient que la femme était vraiment écartée, ou alors c'était des préadolescentes. C'était pas du tout acceptable pour le journal Tintin. Il y avait un journal pour femmes qui s'appelait Lynn, pour jeunes filles qui s'appelait Lynn. Donc on avait bien scindé les deux. Les contraintes étaient claires. Et en plus, Jacobs, je sais, aimait beaucoup chapeau melon et bottes de cuir. Donc je pense qu'il n'aurait pas du tout été contre. Mais voilà, le modèle qu'il avait créé, effectivement, rejette un peu l'idée même d'une présence féminine. On a d'ailleurs, pour nous, c'était très important ce personnage de Lisa. Je suis content que vous le souligniez parce que c'était peut-être on était fiers de ce personnage parce que il apportait brusquement de l'air, une fraîcheur.
Au point que Blake est moins présent. C'est presque Blake qui cède sa place à ce personnage. Jacob van Dormael.
Oui, peut-être que deux mecs et une femme, c'est un sujet qu'on avait envie d'éviter. Donc le personnage de la femme ici, c'est un personnage qui est, comme dit Jacob, c'est un personnage qui est dans l'action. C'est-à-dire, elle est active, c'est une femme forte, c'est une femme qui vient de l'étranger, donc qui a fui l'Égypte pour venir en Europe, et c'est celle qui sauve Mortimer, qui fait en sorte que il réussit à faire ce qu'il fait. Donc, elle est vraiment dans l'action.
Je vous propose d'écouter tout de suite une femme qui a sauvé la pop française. C'est Jeanne Adède. Elle sera de tous les festivals cet été, à Rock en Seine, le 23 août notamment. Tout de suite, elle est dans le NRV.
A fallen heart will lie in a bed that I will make. Out of stone, out of clay, out of the hearts that I will break. My breath will find a way, pale light and delicate, to help you through the day, the beginning of the week. My strength will know.
Jeanne Adède, une programmation Cœur Brûlé, ça vous rappelle quelque chose, Cœur Brûlé, non? C'était une série.
Non, pas le Cœur Brûlé.
Si,
ah
non,
oui, c'est quoi? Les Cœurs Brûlés.
C'était les Cœurs Brûlés, oui. Avec Mireille Dard.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
Ben non, oula, ça la programmation voir. De Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Bonsoir, Philippe.
Bonsoir, Francis.
Vous avez vu les nouvelles?
Pas eu le temps.
La couronne impériale?
Eh bien, cette marque jaune n'y va pas avec le dos de la cuillère.
Le Golden Rocket est prêt.
Allons-y.
Déclenchez le programme d'autodestruction de la base.
Je donne ma langue au chat.
Nouveau rendez-vous.
Philippe !
Oh, regardez là-bas. Je crois que nous touchons au but.
Laurent Goumard.
Blake et Mortimer dans le NRV ce soir à l'occasion de la parution d'un nouvel album hors série, Le Dernier Pharaon, un album France Inter co-signé par le cinéaste et scénariste Jean-Cover Nerman, l'écrivain Thomas Gunzig, l'illustrateur et graphiste Laurent Durieux et l'auteur de BD François Skuyten. À ce sujet, nouvelle aventure, nouveau dessin, les puristes vont gueuler, non? Laurent Durieux.
Oh, ils gueulent déjà? Ouais, ils y sont déjà là, hein, les puristes. Mais bon. C'est la seule manière de penser un travail d'auteur, je crois. C'est de
faire une ligne moins claire, un trait plus anglais. Ça veut dire quoi?
Ah, le trait anglais, c'est des hachures qui épousent les volumes. Voilà, c'est la spécialité de François. C'est ce que je fais aussi un petit peu dans mes affiches. Mais lui, c'est le maître incontesté. Donc, de la hachure. Avec Gustave Doré.
J'ai le roi de la hachure. C'est le roi de la hachure. Demain dans le Figaro, le roi de la hachure. Quitte la BD, voilà, le roi des barras.
Exactement.
Le roi de la rayure. Vous êtes arrivé à quel moment, Laurent Durieux? Parce que tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de dire on a commencé tous les trois et ils ont l'impression, j'ai l'impression qu'ils vous mettent de côté.
Non,
mais
non,
je
non,
sais.
Non,
moi, non, j'adore monter les gens les uns contre les autres. Hein. Sinon, je ne travaillerai pas avec Mathieu Bonalagan.
Oui, oui, ça.
Non, mais qu'on le sait. Je pense que très tôt, François avait une idée derrière la tête, c'est de travailler avec moi. Je pense qu'il n'avait même pas encore commencé le. Non, il n'avait pas du tout commencé.
C'était un rêve, en fait.
Oh, c'est magnifique.
Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, c'est un dessinateur frustré de bande dessinée, Laurent. Parce qu'il a toujours voulu en faire, et puis il s'est dit, bon, c'est un métier difficile, comme je viens de vous le dire. Je vais peut-être pas pouvoir totalement faire la carrière que j'espère. Et il avait ça en lui. Donc c'était comme réveiller une belle au bois dormant.
Ouais, je suis la belle au bois dormant de ce procès.
Le roi de la hachure, la belle au bois dormant de la BD. Mais Thomas Gunzig, écrire une histoire de Blake et Mortimer avec un trait différent, une ligne moins claire, ça engageait quoi, en fait, pour l'auteur?
Oh, pour l'auteur, ça n'engage absolument rien.
Il n'y avait pas des idées, du coup, qui se révélaient de ça, vu que vous avez travaillé en le voyant dessiner.
Non, n'essaye pas.
Ah, mais non, mais tout à l'heure.
Effectivement, n'essayez pas.
Je vous confirme, n'essayez pas, monsieur Lagarde.
Quand vous êtes auteur, a priori, ce que vous aimez, enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime et ce que j'essaye de savoir faire, c'est raconter des histoires. Alors maintenant qu'elles s'incarnent dans des BD, dans des films, sur la scène, avec des hachures ou à la ligne claire, ça change pas.
Et on savait pas non plus où ça allait aller, parce que quand l'année et demie qu'on a travaillé avec François, on a vu un crayonné. Et nous, quand on a vu le crayonné, on a dit, mais est-ce que t'es sûr qu'il faut mettre de l'encre là-dessus? C'est tellement magnifique, c'est tellement beau, le crayon. Et puis quand on a vu l'encre, on s'est dit, ah oui, non, c'est quand même vachement mieux, c'est quand même vachement plus beau. Mais est-ce que tu es sûr qu'on garderait pas le noir et blanc? Parce que le noir et blanc est tellement beau. Et puis quand l'Orient est arrivé, on s'est dit, ah, c'est quand même incroyablement plus beau.
Quand elle s'est réveillée, qu'elle a posé ses couleurs, on s'est dit, oh, on va garder tout ça. Juste une question. Je sais que pour construire ce dernier pharaon, il a fallu 4 ans de travail, de nombreuses recherches sur le terrain. Vous êtes notamment rendu sur le plateau de Gizeh, François Skuyten.
Oui.
Pourquoi faire? Vous n'avez pas d'imagination?
D'abord, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, en cela, nous sommes un peu fidèles à Jacob, qui était très méticuleux, très obsédé des moindres détails. Quand il fait SOS Météor, il vient faire des repérages à Paris, autour de Versailles. Et c'est ça qui donne cette crédibilité. Et dès lors, le fantastique qui vient là-dedans prend de la valeur. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe plutôt de Scan Pyramide, l'équipe de Medita Yubi. Et donc, c'était formidable d'être sur le plateau de Gizeh avec ces scientifiques qui ont découvert quand même une immense salle. Ce qui est quand même aussi une formidable façon de retrouver Jacobs et le mystère de la Grande Pyramide. Et puis, c'était une occasion de dialoguer avec ces scientifiques, de comprendre un petit peu ce qu'est cette pyramide.
Qu'est-ce que vous avez compris alors?
Pas grand-chose, mais j'ai approché. On comprendra jamais tout à fait cette extraordinaire mécanique qu'est la pyramide de Khéops, comment elle a été construite. Ça reste encore tout à fait mystérieux, mais on va avancer et on aura bientôt, je crois, des découvertes qui vont nous confirmer dans certaines hypothèses sur la construction.
Mais au niveau du dessin, au niveau de l'architecture, ça vous a permis quoi ce voyage pour cet album?
D'être assis sur les pierres, de monter un petit peu, on peut pas aller très haut parce que bon, on nous a quand même laissé une liberté, mais pas non plus totale, mais on a pu quand même vraiment entrer dans l'intimité et d'être seul sur le plateau de Gizeh avec toute l'équipe et de commencer à voir la lumière se transformer. C'est des sensations qui en fait nourrissent le dessinateur d'une façon très presque, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais vous dessinez différemment. Si j'avais pas été là, je crois pas que on aurait eu les mêmes idées. Chaque fois que je revenais d'Égypte, j'étais tout heureux de partager avec Jaco et Thomas et Laurent, voilà, les aquarelles, les dessins, et tout ce qui tournait autour de ce lieu. Et ça infuse tout ça.
Thomas Gunzing, qu'est-ce que ça a pu développer au niveau de l'imaginaire chez vous?
Mais en fait, ce qui, je pense, m'a stimulé, c'était surtout l'enthousiasme de François, la passion de François. Et je pense qu'on a fonctionné fort comme ça, ici, dans notre petit groupe. On était stimulés les uns et les autres, par les uns et les autres. L'enthousiasme des uns nous enthousiasmait en retour, et on voulait, je pense, à la fois s'enthousiasmer et s'impressionner les uns les autres.
Vous avez trois mots de vocabulaire que vous avez tournés dans tous les sens.
Vous avez vu ça?
Pour un auteur, oui, je suis curieux de voir ce roman pour la rentrée.
Enthousiasme et excité.
Blake et Mortimer a beaucoup donné, a fait rêver beaucoup de cinéastes. Beaucoup de cinéastes ont eu des projets, ça ne s'est jamais fait. Il y a quelque chose de cinématographique dans Blake et Mortimer, et pour autant, personne n'y arrive. Jacob Vandermeulen, comment vous expliquez que personne n'y arrive en tant que cinéaste? Vous-même, vous seriez tenté ou pas?
C'est des façons de raconter des histoires très très différentes. C'est effectivement, Blake et Mortimer, c'est spectaculaire. Mais les scénarios sont pas
ouf.
Non, mais ils sont pas développés pour être. C'est pas parce qu'on les voit et qu'on a l'impression d'entendre des voix et d'entendre des sons et qu'on se refait un film en lisant une BD que c'est facile à transposer. Je me suis déjà cassé les dents quelquefois sur des essais de transposition. En général, c'est des autres formes de narration. Et quelque part nos incompétences à tous les trois, nos incompétences complémentaires du fait que on n'avait jamais écrit de scénario. Nous, on est arrivé avec quelque chose de plus linéaire quelque part, alors que la tradition du scénario de BD, c'est un peu d'avoir des sous-histoires qui se terminent assez vite, vu que traditionnellement le lecteur devait chaque fois attendre une semaine avant d'avoir la suite. Et nous, on a fait un scénario qui est straight, qui va direct.
C'est ça la force des non-spécialistes, c'est vraiment d'inventer quelque chose que les autres ne se permettent pas. Oui, Laurent.
Oui, je suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas du tout un univers cinématographique pour moi. C'est un univers théâtral. C'est vraiment, et je dirais même un univers opératique. Je crois que s'il y a quelque chose à faire avec Blake et Mortimer, c'est un opéra.
Oui, d'ailleurs, lui-même était baryton, c'est peut-être pour cette raison.
C'est une bonne idée.
Oui, tu vois, ça arrive.
Ouais. Oui, parce qu'il était... Au bout de 4 ans.
Est-ce qu'il serait ténor, tu penses?
Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois très bien toute la magie qu'on peut reconstruire, venant de chez Jacobs, qu'on peut reconstruire sur une scène.
Et ça a été à la radio, du coup, et la radio, les fictions radiophoniques sont beaucoup plus théâtrales.
Absolument. D'ailleurs, il était très fier de ça. Peut-être pas des derniers films qui ont été réalisés en dessin animé, mais alors des disques qui étaient d'ailleurs réalisés ici. Oui. Il a été très fier.
Laurent Dubreuil.
Dubreuil.
Non, Laurent Dubreuil.
Mais moi, ça me va. La belle au bois dormant.
Non, mais c'est vrai. C'est pour réveiller la belle au bois dormant. Mais comment ça fonctionnait? Laurent Durieux, est-ce que ça vous a donné envie, ça y est, enfin, de passer à la BD?
Non.
Mais quel échec, cette émission.
Mais non, c'est... Non, mais je m'explique pourquoi. Parce qu'en réalité, je l'ai fait, moi, par admiration pour François, l'admiration pour Jacobs, pour ce dessinateur fabuleux, et pour l'expérience. Moi, j'avais envie de me mettre au service de François. Et c'est ça qui m'a vraiment excité. Et puis, je le voyais quand même souffrir. Je le compare souvent à un mineur. Il me dit, je lui parlais, je lui montrais des choses, des petites erreurs qu'il avait fait. Il me dit, je m'excuse, mais tu sais, je suis au fond de la mine toute la journée. Alors moi je pense qu'il cherchait des diamants et qu'il les a trouvés, mais quand il remontait, il savait plus trop, et je voyais l'épreuve quand même que c'est d'écrire, de dessiner un album réaliste. C'est un travail épuisant.
Quel type d'erreur?
Oui, il était redoutable. Il avait, hélas, souvent raison. Ouais. Mais j'ai un peu honte, hein, des petits problèmes de proportion, des problèmes où il me disait, tiens, tu vois la tête, là, l'oreille, elle est peut-être pas à la bonne hauteur, vous imaginez où on en est. J'ai un peu honte. Mais ça faisait plaisir parce que c'est un dessinateur, Laurent. Et donc, je peux lui faire confiance. Il a brusquement un regard et il m'a poussé dans les derniers tranchements.
Non, mais j'aurais été dans sa situation, pareil. C'est-à-dire que François, il avait besoin d'un recul, de quelqu'un qui a du recul. Donc moi, j'ai pris le rôle le plus facile. C'est de venir après, une fois que tout est fait, de dire, tiens, là... Mais j'aurais été en situation, j'aurais eu besoin de quelqu'un pour me dire, là, tu as fait des erreurs. C'est normal.
Eh bien parfait, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci à vous tous, François Skuyten, Jaco van der Mal, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Votre album Le Dernier Pharaon est disponible aux éditions Blake et Mortimer. Je signale aussi l'exposition Scientifiction Blake et Mortimer au Musée des Arts et Métiers à Paris. Ça va s'ouvrir le 26 juin prochain.
Ça va être superbe.
Elle sera accompagnée du catalogue coédité par le CNAM et les éditions Blake et Mortimer, qui ne lâchent pas le morceau manifestement, dès le 28 juin.
Y a pas de courage sans peur, je serre les dents. Je serre les dents, quand c'est le temps qui prend, je fais un piano, le passé vient frapper comme une gauche, je serre les dents, le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, toujours sourire, serre les dents, resserre les dents, toujours sourire, toujours sourire, va piano, ouais, va piano. Fabiano.
Piano, un impératif catégorique pour Hervé, qui finit ce NRV de la semaine, car chaque jour, vous le savez, c'est 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. On reste en lien sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram avec le hashtag NRVFI. Marion Lelay, Juliette Médoviel ont signé la réalisation. Virginie Rouzic, Corinne Valande, Margot Page, Benoît Lagan, Laure Grand-Besançon, Gaëtan Lévy et Louisa Chaussouy, tout ce monde pour la préparation. À la technique ce soir, Michel Béziquian et Rémi Sistiaga. Lundi, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec lui.
You're a fool, Harry Potter, and you will lose.
Le Voldemort de Harry Potter, Ralph Fiennes, film Nureyev en corbeau blanc, à ses côtés Philippe Besson en pleine autofiction pour un dîner à Montréal, et dans le NRV la suite, dossier avortement, est-ce que ce serait un retour à la case départ? Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. Alors à lundi.
Rendez-vous.